Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les deux, là, dire, ouais, de toute façon, on ne peut pas gagner de titre en France parce qu'il y a le PSG, parce que le PSG. Au lieu de t'occuper toujours du cul du voisin, occupe-toi du tien.
Ouais, écoute, pour l'apéro avec un petit vin blanc. Ils ont apporté un petit vin blanc, avec, non?
Ouais, il y a aussi
avec le
petit vin blanc. Il y avait un petit vin blanc.
Alors là, faut pas vous promettre. Hein.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là en direct comme tous les soirs sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. Abonnez-vous pour suivre l'After sur votre télé, dans votre salon, c'est facile. Daniel Riolo est là avec moi ce soir, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et Florent Gautreau est là également, salut Florent.
Salut à tous.
L'événement ce soir dans l'After, les gars, c'est une plongée dans le corps et la tête des footballeurs.
Oui.
On aura tout à l'heure avec nous kiné ostéo que nous connaissons bien dans l'After, qui a travaillé au PSG, au Stade Français, et qui est passionnant sur le sujet. C'est vrai que souvent nous on dit bon ben voilà, Attel est blessé, Attel est indisponible, sans vraiment aller plus loin, sans parler de la préparation physique, sans parler du contexte des clubs, de la façon dont les footeux vivent leur vie de footballeur. On fera tout ça tout à l'heure à partir de 22h45. Avant cela, l'avis de Daniel sur les perspectives à venir pour l'équipe de France. On évoquera également un peu plus tard les matchs de qualification en Amérique du Sud la nuit dernière avec blessure de Neymar. Certaines rumeurs venant du Brésil font état de ligaments croisés, ce qui serait évidemment terrible pour lui. On ne lui souhaite pas. On verra quand on aura plus d'infos. Enfin, Nicolas Cougo, qui sera avec nous tout à l'heure, nous dira ce qu'il sait lui depuis l'Afrique du Sud, puisqu'il suit tout ça de très très près. Et puis les suites de l'affaire Darmanin Benzema également en programme dans l'After. On fera le point sur ce qui s'est dit aujourd'hui. Premier message sur le live YouTube. Daniel, lâche ton téléphone. Qui c'est qui nous dit ça? C'est Hugo.
Alors,
savoir que Daniel enquête avec son téléphone pendant l'émission.
Il, alors absolument. Et
il est en lien avec les agents, les hommes qui comptent.
Mais tu crois pas si bien dire, parce que j'étais en train de répondre à Karim Jazuri, l'agent de Karim Benzema, qui visiblement a encore rien compris à ce que j'ai dit, parce que c'est un peu quand ça l'arrange. Quand je suis gentil avec Benzema, je suis le meilleur du monde, on se fait des câlins, parce qu'en plus je l'aime bien, il le sait. Et visiblement là, je crois qu'il a pas dû comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure sur BFM, mais comme on va éclaircir dans un instant, c'est fou les gens qui essayent de pas totalement comprendre. Mais bon, il y a des sujets qui polarisent trop, quoi. Ça me rend ouf qu'il fasse un tweet sur X, parce que après il va me téléphoner pour dire ouais c'est pas bien d'enflammer Twitter, c'est pas bien de machin machin. Pff, franchement là, il m'a saoulé là.
Bon, ce sera tout à l'heure.
Mmh. Ah oui, il m'a saoulé là. Vraiment. Donc j'étais en train de lui répondre.
Je signale que le PSG féminin s'est qualifié pour la phase de poule de Ligue des Champions en battant Manchester United 3-1. Ça s'est fini il y a maintenant quelques minutes. Ton micro, oui. Oui, le Paris FC s'est qualifié aussi.
Grande soirée pour le foot féminin.
Trois clubs français en Ligue des Champions féminine cette année dans la phase de poule. C'est plus que chez les hommes. Voilà.
Largement.
L'équipe de France, on va démarrer par ça pour clôturer cette période internationale. Jingle Riolo, s'il vous plaît.
J'ai du mal à voir là avec votre analogie Jean-Paul Belmondo, Jean Dujardin. Franchement, mettre les deux dans la même phrase, j'ai manqué de m'étrangler à tout dire. C'est vieux ça.
Oui,
il est bien Jean Dujardin, c'est un bon acteur.
Ça date d'OSS 117.
Oui, mais j'aime bien.
Jean Dujardin, il faut juste qu'il arrête les rôles dramatiques.
C'est pas Bébel.
Non, faut juste qu'il arrête les rôles dramatiques.
Mais il est très fort. Il est très fort. J'étais un peu sévère.
Je pense qu'il est un très bon acteur, mais je pense pas que c'est un acteur dramatique.
Ah, excuse-moi, non, en novembre, il est bien.
Il est mieux.
Très très bien.
Il est mieux, il progresse.
Non, il est bien, c'est un bon acteur. Mon avis, équipe de France.
Oui.
Eh oui. Tu vois, vous allez trouver ça étonnant, évidemment.
Flo Gautreau, on dirait Georges Saint-Pierre avec 30 kilos de moins et des cheveux en plus, pardon.
Putain, non, mais faut arrêter
de les lire. Mais je connais pas Georges Saint-Pierre.
Non, mais c'est surtout, faut arrêter de les lire parce que ça déconcentre complètement.
Excuse-moi. J'ai vu Daniel Riolo, j'ai coupé pendant son avis.
Après, on fait plus attention et tout. Non, tu peux me couper autant que tu veux. Ouais, vous allez peut-être trouver ça étonnant parce qu'après un match amical qui, globalement, Flo en a parlé hier, était un peu ennuyeux si on ne regardait que ça. Mais je vais plutôt prendre dans la globalité les deux matchs et peut-être faire un avis qui va surprendre. Mais très franchement, j'aimerais que tout le monde se pose la question. Sur les dernières années, le nombre de fois où j'ai dit que c'était très chiant de regarder les Bleus, où le style de Deschamps me fatiguait vraiment. Eh bien, je dois dire quand même que ces derniers mois, est-ce que pendant la Coupe du Monde, il y avait eu un mieux? Pas forcément, en tout cas sur la finale où les Bleus avaient été largement dominés, avaient proposé très très peu de choses. Mais là, moi, je trouve que à regarder, c'est pas chiant et j'ai l'impression qu'il y a plus de jeu. Alors, est-ce que c'est une impression? Je ne le crois pas, parce que j'ai trouvé que les matchs étaient plus intéressants à suivre. J'ai trouvé, par exemple, et c'était une nouveauté qu'avoir un arrière droit qui monte et qui participe au jeu, c'était très intéressant, plutôt que d'avoir les quatre défenseurs centraux alignés avec aucun qui fait quelque chose. Ça avait commencé quand même avec Théo Hernandez. Si on ajoute à ça Jonathan Clauss, est-ce qu'on est en train de vivre pas un renouveau, mais comment dire, une sorte de vent frais au sein des Bleus? J'ai envie de l'espérer parce que, je le répète, ces dernières semaines, quand j'ai regardé l'équipe de France, j'ai trouvé qu'elle proposait des choses très intéressantes dans le jeu. En tout cas, on a désormais, c'est clair, net, une ligne de trois attaquants, plus Griezmann au milieu qui oriente le jeu, et je trouve qu'on l'a pas assez dit hier, et peut-être un peu plus vendredi, mais ça mérite d'être dit, c'est vraiment un joueur essentiel à cette équipe, plaque tournante, vraiment c'est le playmaker maintenant de cette équipe. Bon, c'est pas nouveau, même à la Coupe du Monde, il l'était à part la finale. Voilà, j'avais envie de souligner les prestations plus emballantes de l'équipe de France. Moi qui pendant des années disais que j'aimais pas du tout le style qu'elle proposait, eh bien peut-être qu'avant cet Euro, on est en train d'assister à un changement. Alors je sais qu'on avait parlé de ce changement avant l'Euro 2021 et ça s'est mal terminé. Et ça avait peut-être poussé Deschamps à revenir un petit peu en arrière et à quelque chose d'un petit peu plus cimenté. Je ne l'espère pas, parce que vraiment il y a beaucoup d'attaquants et qu'une attaque Coman, un neuf qu'il va falloir trouver, j'espère que ce sera Marcus Thuram qu'on n'a pas assez vu. Et en tout cas avec le maillot bleu, et Mbappé soutenu par Griezmann et des milieux de terrain comme Tchouaméni qui a une belle frappe. Je suis convaincu que l'équipe de France a certainement l'un des meilleurs 11 et qu'il y aura
Christophe Dugarry a dit tout à l'heure dans Rotten sans flamme, il a dit pour moi l'objectif c'est gagner l'Euro, ils sont tellement au-dessus de tout le monde que à part gagner je vois pas ce qu'ils peuvent arriver à faire. Dugarry il considère carrément que si tu gagnes pas c'est que t'auras pas fait le taf en fait.
On sait très bien qu'il peut tout se passer dans un match, en tout cas
vu en gros l'opposition en ce moment quoi.
La dernière fois, si tu prends les dernières fois que les Bleus ont perdu. Ils perdent contre les Suisses en 2021 en étant au-dessus. Mais ils font une connerie et ça fait partie de l'échec de mal gérer un match et de faire n'importe quoi tactiquement pendant le début du match. On s'en souvient à l'époque. À l'Euro, à la Coupe du Monde, sans être toujours brillant, ni en huitième, ni en quart, ni en demi, ils gagnent et c'est sur la finale où vraiment je trouve qu'ils sont mangés. Et sinon, à part ça, ça passe tout le temps, quoi. Donc, c'est quand même extrêmement difficile de les battre. Donc, évidemment qu'ils sont favoris. Surtout quand tu regardes les autres équipes. Tu regardes les autres équipes, tu te dis, mais c'est clairement en dessous, quoi. Il n'y a rien à dire.
Voilà, le terme exact du gars, c'est s'ils jouent à leur niveau, tout autre résultat qu'une victoire sera un échec.
Écoute.
Flo, d'accord avec Daniel ?
Oui, d'accord.
Et avec Dugas au passage.
D'accord globalement, bien sûr, sur ça, parce que l'équipe de France est assez irrésistible. Mais je pense qu'il y a une autre raison que le changement tactique ou ce qu'a vu Daniel avec un meilleur jeu, un jeu plus sympa, qui effectivement est la conséquence. Mais la conséquence peut-être d'autre chose, qui est le management, puisque on en parle souvent. Et Deschamps est un as dans ce domaine-là, mais il avait montré quelques limites quand il a montré des limites quand le groupe avait gagné. Et quand derrière, après avoir gagné, il s'est retrouvé avec des cadres très costauds, Pogba, Varane et compagnie, et même Coman, qui lui avait fait cette scène, c'est ne pas vouloir sortir. Et là, on avait vu un Deschamps un petit peu interdit, un petit peu bloqué par, finalement, le monstre qu'il avait enfanté. Je pense qu'il est plus à l'aise depuis le départ des cadres. C'est-à-dire Benzema, Loris, Varane, je ne dis pas qu'il avait du mal à les gérer. Je dis que c'est encore plus facile pour lui d'avoir à sa disposition une équipe plus jeune, à sa main, c'est-à-dire des joueurs qu'il peut sortir quand ils ne sont pas bons plus facilement et faire rentrer sans que ça crée un cataclysme. Donc il y a deux effets à cette jeunesse, c'est que c'est une jeunesse brillante, très forte offensivement, mais qui a aussi déjà les codes. Je pense des grands clubs comme Tchouaméni, Kamavinga. Tu vois, on a comme en 98 des joueurs qui évoluent déjà dans des gros clubs avec une grosse pression. Donc ça c'est l'effet jeune positif des jeunes déjà qui ont de l'expérience. Et puis pour lui dans le management, je pense que c'est plus simple que d'avoir à gérer le Benzema Giroud, que d'avoir à gérer un Loris qui est clairement en déclin à la fin, un petit peu comme tout gardien, mais qui ne peut pas sortir légitimement, enfin pour qui c'est quasiment impossible de le faire. Et donc maintenant, bah oui, Loris dit j'arrête, Varane dit j'arrête, Benzema idem. Alors là, c'est plus simple. T'as Maignan qui est meilleur que Loris. Bah voilà, Maignan est titulaire. Tu as au milieu de terrain Tchouaméni qui s'impose. Tu as Griezmann, son cadre le plus fiable sur et en dehors du terrain en termes de polémique, d'absence de polémique, qui reste. Voilà, il a effectivement le cas Mbappé à gérer parce que c'est de toute façon un joueur hors norme. Mais globalement, je pense que l'équipe elle est plus simple, elle est plus jeune, elle est talentueuse et donc c'est aussi pour ça que pour Deschamps quelque part il laisse plus s'exprimer. On va dire le talent, comme si tu vois, il avait imprimé aussi sa marque.
Est-ce que
au
le
début,
point central
peu,
de tout ça n'est
pas
le
défensif,
fait...
par exemple, tu vois, au début.
Bah, c'est ça. Est-ce que le point central de tout ça n'est pas le repositionnement et l'acceptation définitive de mettre Griezmann là où il est aujourd'hui.
Ouais.
C'est-à-dire de jouer finalement clairement avec quatre joueurs offensifs, voilà, et de l'accepter parce que ça, en fait, c'est un peu contre nature pour Deschamps.
Bien sûr. En fait,
c'est pas le Deschamps première époque. Ça.
Je pense que quand le Deschamps première époque construit ses bleus, il se dit en mode jaquet. Il faut qu'on soit solide. C'est tout part d'une équipe, d'une base, d'une équipe solide. Et il a pas tort. Il gagne la Coupe du Monde. Voilà. Donc il a pas tort. Sauf que là maintenant, il comprend aussi parce que Deschamps, c'est ça. C'est son. On dit qu'il est conservateur. Moi, je dirais plutôt qu'il a un sens de l'adaptation qui parfois prend un petit peu de temps à venir, mais il s'adapte. Et Deschamps, après avoir s'être dit, il faut construire une équipe solide parce que c'est ma nature, c'est mon histoire, c'est ma culture. Et c'est l'héritage Jacquet. Il se dit maintenant, avec l'expérience, j'ai la chance d'avoir une génération talenteuse. Je vais la laisser aussi se gérer et je vais la gérer moi-même plus facilement parce qu'il est plus simple pour lui et qui est très respecté dans le vestiaire de gérer ces gars-là, quitte, je le disais aussi, à les sortir, à les challenger. Tu prends Klose, par exemple, prenons ce cas. Il le prend, il le sélectionne, il rate, on va dire, un petit peu ses premiers pas et il ne fait pas la Coupe du Monde. Klose, ça, quand il revient, là, voilà, Deschamps lui a fait comprendre, c'est ça le haut niveau. T'as compris que Klose, il s'est dit, match des Pays-Bas, je fais pas les mêmes conneries que les dernières fois. J'y vais. Il a regagné Klose. Après, à l'inverse, les joueurs lui montrent aussi, lui disent, y compris Pavard, il en fait peut-être un peu trop au sens-là, il lui montre aussi du caractère en disant, moi, je veux te prouver que je suis meilleur défenseur central que latéral droit. Et Deschamps, contrairement à certains ou à une certaine époque, ne dit pas, non, avec moi, c'est comme ça, même si, il finira peut-être par vouloir le mettre uniquement arrière droit, mais en tout cas, il a su s'ouvrir, le laisser jouer défenseur central. Pavard a montré ce qu'il valait, on le savait. Tout ça, ce sont des signes d'ouverture, de management intelligent, et je pense que c'est aussi ça qui explique qu'on a plaisir à voir cette équipe, qui est évidemment au-dessus, pour l'instant, au-dessus des autres.
Dans un instant, on continue et on conclut le débat avec Antoine au 32-16, et ensuite, on fera le point sur l'actu du jour, et notamment les informations qu'on a ce soir dans l'after, dans la passe d'armes entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et Karim Benzema. À tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilles Darbribois.
22h16, ils sont là, Daniel Riolo, Florent Gautreau tout à l'heure, dossier spécial médical dans l'after, dossier médical avec notre invité Grégory Dorn.
Médical de quoi ? De quelle partie du corps ?
Toute. De la tête au pied.
La tête.
T'as les yeux ou pas ?
Pourquoi les yeux ?
Non, pour rien.
Parce qu'en fait, on dit à Daniel sur le chat de mettre ses binocles quand il va sur Twitter.
C'est horrible, franchement c'est horrible d'être obligé d'avouer que sans lunettes on voit plus rien, c'est affreux.
Bah, en même temps, que veux-tu?
Mais non, mais je lutte contre ça.
Pas grave.
Je ne veux pas les mettre.
Il y a quelques encablures de la retraite, Daniel.
Et en fait, après, c'est fou. Ça fait faire des conneries.
Donc, en gros, t'as mal lu le message de Karim Djaziri. C'est ce que tu es en train de nous dire. Il ne t'était pas destiné.
Non, mais c'est horrible parce que il y a deux jours, les gens, certains ont pas cru et tout, mais c'est pareil avec pour le texto, c'est sur Benatia à l'OM. Je commence à lire les trucs pas bien, c'est affreux. Admettre que je peux pas me déplacer sans lunettes. Mais il va falloir que je
les prends pour conduire.
Non, j'ai pas besoin pour conduire.
Pour prévenir les gens dans la rue là, quand tu pars à minuit et quart. Attention, Daniel va partir. Libérer la chaussée.
Et même pour l'écran, quoi, je peux plus. Oh là là. Bon, ben voilà, ce soir je le saurai. Je ne peux plus.
Antoine, bonsoir. Antoine, pour parler des Bleus. Salut Antoine.
Bonsoir à vous.
Salut Antoine.
Bonsoir à toute l'équipe.
T'es d'accord avec ce que t'as entendu là, l'équipe de France ultra favorite à l'Euro ?
Alors, non, pas totalement en fait. Alors, c'est pas pour remettre en cause l'équipe de France, mais plutôt la vision de la concurrence. C'est que je pense qu'on a un peu tendance à sous-estimer les autres équipes, comme ça a été le cas au rugby, comme c'est le cas dans toutes les compétitions, on se voit toujours meilleur que les autres. Aujourd'hui, moi, je vois quand même deux équipes, alors une un cran en dessous, mais au moins une qui rivalise largement avec la France, c'est l'Angleterre. Aujourd'hui, quand on parle de l'attaque de la France, je la compare forcément avec l'attaque de l'Angleterre. Ok, il y a Mbappé. Maintenant, en numéro 9, entre Thuram, Colomoigny, Giroud, face à un Kane, moi je prends Kane 100 fois. À droite, entre Coman, Dembélé et Rashford, par exemple, ou Foden, je suis désolé, mais en termes d'expérience en grand club et au niveau international, ça fait le.
Mais c'est pas tant la question. En fait, moi, je suis d'accord avec toi. Effectivement, moi, en plus, ça fait au moins 2-3 compètes qu'à chaque fois je dis les Anglais, ils sont forts, ils ont une super génération. Moi, je suis d'accord en qualité de joueur. Non seulement ça se discute, mais je pense que je pourrais te rejoindre sur un tas de postes où je trouve que les Anglais sont meilleurs. Mais le collectif marche moins bien parce qu'il y a un entraîneur qui est, à mon sens, un peu défaillant. Et parfois, il y a des joueurs, tu sais, qu'on a l'habitude de voir dans les clubs anglais, qu'on trouve très forts. Alors déjà, je crois presque qu'ils ont un surplus, ce qui fait que l'entraîneur est amené à faire des choix et qu'il n'arrive pas trop à faire de choix, tellement il a des joueurs forts à certains postes.
Je pense que c'est comme la France, ouais, clairement, hein.
Je pense qu'à la limite, en poste fixe et en doublure, ils sont peut-être même au-dessus de nous. Mais en défense, en revanche, là, je suis pas sûr. Ils ont un problème sur la charnière centrale. Parce que si tu vas par là, tu prends les Allemands. Les Allemands, sur le papier, c'est une belle équipe depuis une, deux, trois compétitions où ils se ratatinent la tronche à chaque fois. Mais le problème, c'est que le collectif, ils arrivent pas à le trouver. La mentalité des joueurs, ça compte beaucoup dans une grande compète. Le mental, de ce côté-là, je pense que les Français sont au-dessus. Parce que Deschamps a réussi au cours de toutes ces années à leur mettre ça dans la tête. Ils arrivent réellement à être très forts mentalement. Les Anglais traînent un peu une louserie et les Allemands, ils sont en dépression.
La Coupe du Monde a pas créé aussi cette peur
À la Coupe du Monde, tout le monde avait peur de la France, hein. Kane, quand il rate son penalty. Honnêtement, s'il met son péno, moi, je vois pas la France passer.
Non, bien sûr. Mais la France, en fait, elle a perdu deux finales. Faut pas oublier. Elle a perdu l'Euro. Et elle a perdu.
L'Euro, c'était en quart, hein, c'était pas en finale.
Contre le Portugal.
Ah oui, tu remontes à 2016, excuse-moi.
Pardon.
Entre-temps, il y a quand même eu la victoire en Coupe du Monde, c'est pour ça que tu m'avais perdu, là.
Oui, bien sûr.
Je vous arrête, l'information vient d'arriver, ligament croisé pour Neymar.
Ah, mais on savait, puisqu'il y avait 8 mois d'arrêt.
Oui, mais là, c'est officiel par le venant du Brésil.
Ouais. Là, tu peux parler carrière, parce que justement.
Oui.
Sans compter qu'il avait. Non, mais on va en parler à mon avis tout à l'heure. Oui. Je voulais parler, intégrer Neymar justement dans
notre dossier médical.
Évidemment.
Bon, voilà. Et puis on aura Nicolas Cougot qui nous parlera de ce qui se dit en Amérique du Sud tout à l'heure.
Revenons à l'équipe de France, Antoine. Pour moi, elle est finie déjà depuis 2-3 ans.
Ma théorie Griezmann, là, elle vous plaît? Que le repositionnement accepté par Deschamps et validé par Deschamps et assumé par Deschamps maintenant, d'avoir 4 joueurs vraiment offensifs, ce qui est nouveau pour lui, c'est ce qui a peut-être le point qui a tout changé.
Ah, moi j'aime beaucoup Griezmann en espèce de numéro 10, en créateur. Je trouve que c'est sa meilleure.
Tu sais, 10, il recule, c'est quelqu'un, d'abord, il est habitué à défendre dur parce que il est à l'Atlético depuis une vie et que là-bas, il est habitué aux efforts et à défendre.
Parce qu'on appelait un 8 avant.
Ouais, il est plus 8 que 10, mais en fait, il est organisateur, il fait un peu tout. Et il est parfait, vraiment, il est très très bon.
Mais c'est vrai que l'avantage, c'est une petite révolution culturelle, Gilbert a raison, parce que je pense que Deschamps, persuadé qu'on doit et qu'on peut gagner en étant très solide, et il a gagné en étant solide, faut le reconnaître, comme ils ont gagné avec Jacquet en étant solide, il s'est dit, on commence par ça. Je dirais qu'il est libéré par ça. Deschamps, en fait, il a plus rien à prouver. Donc il se dit, ok, j'ai une génération de joueurs offensifs, mais aussi de gars, effectivement, comme Griezmann, qui savent défendre qui veulent défendre. Moi, je pense que, comme pour tous les coachs, comme pour Luis Enrique au PSG, il y a quand même le cas Mbappé. Quand même, il reste ce point-là. C'est-à-dire qu'évidemment, t'as un des meilleurs joueurs du monde. Ok. Sauf que lui-même, c'est le seul joueur pour lequel il dit encore ce qu'il ne dit jamais Deschamps dans une équipe. Ouais, mais c'est vrai que s'il y en a un comme lui, s'il y en a un qui doit pas courir, en gros, enfin qui doit pas défendre, c'est peut-être Mbappé, c'est machin. Tous les coachs se heurtent à ce truc-là. Il a quand même un poids incroyable qui dépasse le cadre d'une équipe normale. Donc, je pense quand même que, par rapport à tout ce qu'on a dit là, c'est pas tant de faire une charnière, de dire à un tel, non, ça y arrivera. Kamavinga, c'est pas bon.
Quel problème tu évoques à travers Mbappé?
Mbappé, quand tu vois la finale de la Coupe du Monde là, Mbappé, quand il joue, quand il ne défend pas suffisamment, quand il est absent, quand il sort comme ça du match, ça n'est pas possible. Dans les matchs clés, dans les matchs décisifs, le France-Angleterre qui pourra peut-être arriver à l'Euro, tu peux pas le passer avec un Mbappé qui disparaît pendant 70 minutes. Et ça lui arrive encore. Et là, je veux dire que là où Deschamps avec
tout... Tu trouves que sur la finale, à contrario, les trois buts qu'il met, c'est pas aussi parce que Deschamps lui dit, ben, donne tout pour l'attaque, qui était très efficace.
Non, je pense que c'est le fait est que Mbappé, au moment où il met ce premier but derrière, il enclenche le truc parce qu'il se disait qu'avant c'était perdu et qu'après il a un mental de dingue, c'est un joueur incroyable.
Donc, toi, tu veux qu'il participe plus à l'effort collectif défensif.
Et je pense que les coachs.
Tu ne veux pas l'exonérer de ça.
Non, et Luis Enrique, on l'a vu encore, je pense que ça va être aussi un des problèmes pour lui. C'est-à-dire que d'abord, est-ce que il ne sorte pas Mbappé, tu sais, même quand parfois il faut le ménager parce que tu ne peux pas sortir. Enfin, il me semble que tu ne puisses pas sortir Mbappé. Même
pareil,
Deschamps,
il veut jouer contre l'Écosse et il rejoue.
Exactement, même Deschamps, il peut faire un peu ce qu'il veut avec n'importe quel footballeur en France normalement.
Oui, mais
d'accord.
Est-ce que pour l'instant, finalement, ça porte pas ses fruits?
Non, je veux dire, j'essaie de voir les bémols à ce que statut. Tu dis. C'est-à-dire, il a raison. Comment il s'appelle, Jean?
Antoine,
pardon. Moi, il a raison de dire attention, on s'enflamme. Non, aujourd'hui, t'es au-dessus. Mais la question, c'est qu'est-ce qui peut. Quel est le grain de sable qui peut enrayer en gros cette machine, comme disait Dugas, qui doit gagner l'Euro parce que c'est leur niveau. Je te dis juste que tu ne peux pas te permettre dans les plus gros matchs, dans les matchs décisifs, déterminants, tu peux pas te permettre pour n'importe quel joueur, y compris Mbappé, de disparaître et de réapparaître comme ça dans un match. Non, c'est pas possible. Deschamps arrive avec tous les autres joueurs à les bonifier, à les mettre sous pression, à les sortir, à les faire progresser. Tu vois, on a vu comme il avait géré Pogba pendant la Coupe du Monde gagnée par la France. C'était quand même une masterclass parce que Pogba, il a rien fait de mieux depuis dans toute sa carrière. Eh ben, Deschamps, j'attends quand même que même avec Mbappé, ce qu'il avait fait au début, tu sais, le match contre l'Australie, mais ça, c'était le Mbappé jeune de la première Coupe du Monde. Maintenant qu'il arrive à gérer ce truc-là, qui pourrait être un des points entre guillemets complexes pour le prochain Euro. Pour le reste, t'as raison, même la charnière centrale, et même si c'est pas avec Pavard, mais même s'il décide de mettre, je sais pas moi, Konaté, que je vois très très fort là en ce moment, je pense que là-dessus on peut arriver à construire une défense solide. On a un meilleur gardien que dans les dernières compétitions. Je pense que Thuram effectivement peut être le 9, que ne sera pas, c'est mon avis, Colomouani, parce que je pense que au plus haut niveau, il va partir sur l'aile et remplaçant et partir en joueur d'impact sur l'aile.
Il n'a pas la vitesse pour jouer ailier.
La Coupe du Monde, il est rentré comme ça, il a fait du mal.
Enfin bon, c'est pas
en joueur d'impact, en joueur de rotation.
Je suis même pas sûr. Coman est de
bien,
ce côté-là.
Coman est meilleur,
façon,
mais ce que je veux dire, c'est que pour le point Colomouani, c'est, je l'ai dit pour le PSG, je dis pas que c'est un joueur de côté, je dis juste qu'il va avoir du mal à s'imposer dans l'axe au très haut niveau.
Mais bon, ça oui,
c'est
ça,
un très très haut niveau. Hein. Ligue des Champions, Ligue de France.
Ça, je l'entends.
Mais voilà, pour revenir à Deschamps,
en tout cas, il faut qu'il nous le prouve s'il est capable de jouer en neuf au très haut niveau.
Plusieurs
il va
fois,
falloir qu'il nous le montre.
Bon, il est jeune et ça fait très peu de gros matchs qu'il fait. Ça fait plusieurs fois qu'il n'y arrive pas.
Après, à sa décharge, il vient d'arriver au PSG.
Ouais.
Et surtout, il vient d'arriver à Paris.
Moi, j'arrive pas à relever de la tête le Colomouani qui rentre en finale de la Coupe du Monde.
Et oui, Paris, c'est
on
compliqué
était au
à gérer,
stade,
quand il arrive.
Juste au-dessus
mais
de lui.
C'est
là,
facile, ça.
Il avait fait un match de dingue, donc il est capable de ça.
Non, Gilbert, ça,
mais
sans
ça,
pression.
Je suis d'accord.
Non,
mais
ça, c'est l'outsider.
Dis,
ça, c'est la position. Quand t'es outsider et que tu peux tout changer, que tu as zéro pression, il l'a fait de manière remarquable. Il a réveillé les Bleus. Maintenant, on lui dit, attention, maintenant, t'es au PSG, tu vas être le 9 du PSG. En équipe de France, tu vas essayer d'être le 9 des Bleus. Et là, je dis que je pense qu'il n'arrivera pas sur ce poste spécifique, très compliqué, très dur à tenir. Il n'arrivera pas à passer ce cap-là, à ce poste-là. C'est pour ça que je dis qu'il pourra être dans un groupe, mais qu'il jouera sans doute plus sur le côté, même si effectivement il a été formé en neuf. C'est un neuf. Il a joué en neuf en Allemagne. C'est un neuf à Nantes. Mais c'était pas le très, très haut niveau.
Pas mal de messages sur Direct Studio et sur le chat YouTube qui est dans les murs de notre studio. Hein, donc ça réagit pas mal.
C'est vrai qu'on nous dit qu'un Deschamps va-t-il intégrer un nouveau neuf parce qu'il y a aussi derrière les Wai, les Tel et compagnie.
C'est jeune quand même. Non, hein.
C'est jeune, mais je parle dans le groupe. Hein, attends.
Avant qu'il intègre eux, j'ai envie de voir Marcus Thuram, j'ai envie d'en voir d'autres. Quoi.
Exactement. Et puis on nous dit pourquoi vous avez abandonné Twitch pour YouTube. Bah alors en fait, je vous explique, pour être tout à fait transparent. YouTube permet à tous les francophones partout dans le monde d'avoir un accès à l'after, d'avoir l'after dans le salon sur sa télé quand on a une télé connectée, c'est quand même magique. Avant c'était impossible. Pour nous c'est un outil extraordinaire.
Parce que Twitch on pouvait pas le faire. Ça.
Non, on pouvait pas le faire.
Pourquoi
Parce que Twitch est géobloqué en France.
Ah ouais, je savais
et
pas.
Et YouTube, c'était au Canada, c'était à l'autre bout du monde, c'était en Afrique, je sais pas, enfin n'importe où. Tu te connectes sur YouTube, pam, tu peux envoyer des messages que tu vois, toi, tu vois ton propre message dans ta télé, magique. Et en plus, tu peux voir le studio. Donc voilà, abonnez-vous. Dans un instant.
On me dit que j'ai le visage d'un jockey. Vous connaissez pas, mais on me dit entre Stéphane Pasquier et Christophe Soumillon. C'est des noms qui vous parlent pas.
Si, Soumillon, ça nous parle. Soumillon, ça pensait que c'est une vedette du
beaucoup
métier.
Beaucoup de messages sur Cherki. Hein. On n'a pas parlé de Cherki.
En revanche, Pasquier, non, pour moi, c'est les brioches, hein, Pasquier, pardon.
On n'a pas parlé de Cherki, impliqué sur 8 des 9 buts des espoirs hier, paraît-il.
On peut parler de Cherki deux minutes. D'abord.
Bah, alors, après la pub.
Ok.
Si tu permets. Dans un instant, Cherki, au programme, entre autres, et puis le point sur l'affaire Darmanin Benzema, avant de parler médical. Ce sera un gros dossier médical qui va être passionnant sur la vie des joueurs de foot.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h30, Daniel Riolo, Florent Gautreau, ils sont là. D'ici minuit, on ira également prendre des nouvelles de Neymar. Nicolas Pougo de Lucarno Posé a suivi évidemment comme d'habitude tous les matchs de la nuit en Amérique du Sud. Le Brésil annonce ce soir que Neymar va se faire opérer des ligaments croisés. On évoquera tout ça tout à l'heure, ce qui fait peut-être les ligaments croisés les plus chers de l'histoire, là, en l'occurrence. Pour le club de Al Hilal qui l'a recruté, c'est également un énorme coup dur. Les gars, oui, un mot de Cherki avant de parler de l'affaire Darmanin Benzema. Tout à l'heure, Walid en a fait un avis. Alors peut-être que Thierry Henry sait mieux l'utiliser que Grosso. Je sais pas, Grosso il le met sur le banc de façon d'entrée, donc il a sans doute ses raisons. Hein, on en a parlé plusieurs fois dans l'after.
C'était juste un match contre Chypre, hein, les gars.
Voilà. Alors est-ce que l'adversaire est à prendre en considération?
Cherki va probablement créer un phénomène similaire à celui que Ben Arfa a créé en son temps, et pas mal d'autres joueurs, on a l'expérience maintenant, le recul dans l'after après 18 ans du nombre de joueurs qui créent des hypes comme ça instantanées, violentes, parce que on aime les joueurs qui jouent de cette façon-là, qui savent tripoter le ballon, qui savent un peu tout faire avec, et qui sont des joueurs tout simplement qui font la décision. Certains appellent ça les joueurs frissons. Il a clairement quelque chose que d'autres n'ont pas, ce joueur. Mais nous, enfin moi, je parle pour moi, je ne changerai jamais, et c'était la même chose à l'époque pour Ben Arfa. Moi, j'aime bien ce genre de joueur, mais je veux qu'il montre au bon moment. C'est pas un match contre Chypre avec les espoirs. Je sais même pas de quel niveau était Chypre hier, mais le peu que j'ai vu. Puis, il faut également se dire que les espoirs, ça reste les espoirs. Nous n'avons jamais, dans l'after, au cours de toutes ces années, fait un débrief d'un match des espoirs. Il faudrait qu'il soit en finale de l'Euro Espoir ou un truc comme ça pour qu'on en parle. La vérité, c'est qu'au fond, les espoirs, ça reste les espoirs. On s'en fout. Je veux dire, ça compte pas vraiment, les espoirs. Sauf quand il est à l'Euro Espoir, où là, vraiment, on peut commencer à regarder, évaluer les forces en présence, faire connaissance avec certains joueurs et se demander ce qu'ils vont faire. Cherki, les catégories expected crack, et c'est pas Flo, Gilbert, Daniel qui vont qui le mettent sur le banc quand il est à Lyon. C'est pas nous trois qui Cherki, depuis qu'il est à Lyon, il a vu passer des directeurs sportifs, des entraîneurs qui tous ont eu des problèmes avec lui, des problèmes de mentalité et des problèmes de jeu. Ce qu'il faut, c'est souhaiter qu'il mûrisse, et je pense que le pauvre a également souffert, Cherki, du mal français, à savoir de la montée en vedette, parce que comme on est un pays où les jeunes espoirs sont immédiatement montés en flèche parce qu'il faut les vendre, c'est ça aussi qui est un peu le défaut de nos analyses, enfin, ou des analyses globales dans ce pays. Donc, j'espère qu'il va pas s'ouvrir de ce phénomène-là, à savoir si on lui monte la tête, on lui monte la tête, on lui monte la tête, et quand il arrive en club, eh ben, pour lui, à 19 ans, à 20 ans, ça doit déjà être le patron de l'équipe. De toute façon, c'est pas normal que, à cet âge-là, on soit le patron de l'équipe. Il n'y a pas de « je prends le pouvoir » ou machin ou ceci. Une équipe comme Lyon devrait... Alors malheureusement, ils n'ont pas. Et c'est ça qui a un peu tout fracassé. Et Lyon et les jeunes joueurs, ceux qui sont partis, lui devait partir, il est resté. Ce bordel-là ne lui a pas rendu service. Et il n'y a pas de « il est mal utilisé » ou « il est bien utilisé ». Juninho a eu des problèmes. Blanc a eu des problèmes, puis avait commencé un petit peu à les résoudre. Grosso, à peine arrivé, n'arrive pas collectivement à en faire quelque chose. Il va progresser. On peut pas tout lui donner à son âge. Et on s'emballera quand il faudra s'emballer. Quand il fera des bons matchs, on dirait, il a fait de bons matchs. Pour l'instant, les retours qu'on a sont pas tous positifs, loin de là. Et en Ligue 1, à part quelques matchs un peu éparpillés depuis qu'il est, il a commencé la Ligue 1. On peut pas dire que la régularité, la façon dont il joue ou il est dans le collectif, on peut pas dire que tout ça ce soit à mettre à son crédit pour l'instant. Donc calmons-nous. Dire, on en a tellement cramé des joueurs, il y en a tellement qui se sont cramés. Laissons les expected cracks progresser.
Bon. Tu veux dire un mot?
Une phrase très simple. Grosso a dit ce que Blanc avait un peu dit. Blanc un peu sur l'attitude, sur les je lève les bras quand j'ai pas le ballon, il y avait pas de l'attitude. Grosso a dit plus simple. Il faut qu'il pense collectif.
Ben oui.
C'est bon, voilà, c'est très simple. L'exemple, on va parler d'autre chose sur Benzema là, mais l'exemple foot pour moi c'est Benzema. Ben je dis toujours. C'est comment Benzema, puisque c'est un Lyonnais, pour lui c'est un exemple qui doit parler. Comment Benzema est devenu Benzema sur un terrain?
Le travail.
Le travail, puis en jouant, les autres, en jouant avec les autres.
Absolument.
Alors qu'il voulait aussi ses stats.
Il n'a fait que développer le collectif.
Je pense pas que Benzema, d'ailleurs, ait eu en tête, alors qu'il voulait le ballon d'or, ça c'est sûr, mais uniquement les stats. Sinon, il n'aurait pas joué comme ça.
Je comprends pas que ce joueur soit à ce point un exemple pour des générations entières de jeunes joueurs et qu'en fait, on ne veuille pas comprendre comment Benzema a atteint ce niveau. C'est un exemple, mais en fait, c'est l'exemple. C'est comme si on regarde tout en haut, mais on regarde pas le chemin. Je trouve ça fou.
Et il avait dit, grosso, pour reprendre la phrase, était bien aussi, parce qu'il avait dit, il faut qu'il soit plus connecté au groupe, notamment pour défendre. C'est-à-dire qu'il était rentré, puisque j'ai parlé tout à l'heure du cas Mbappé avec Deschamps, il était rentré dans ce truc-là. C'est-à-dire que si Cherki pense, en revenant du match contre Chypre, bah, vous voyez, ça, c'est une leçon, c'est une réponse à tous ceux qui pensent que j'ai pas le niveau, parce que regardez, je suis impliqué sur les 8 buts. Oui, mais ça, on sait qu'il peut être impliqué offensivement, y compris contre une adversité plus facile. Mais ce qu'on veut voir, c'est tout le reste. C'est quand ça ne marche pas, c'est quand il faut défendre, c'est quand il faut parler collectif, c'est l'attitude en dehors, c'est le QI foot au sens large, quoi.
Voilà pour le dossier Cherki. Ouvrons maintenant la passe d'armes d'Armanin Benzema. Le ministre de l'Intérieur sur CNews, il y a maintenant 48 heures, a déclaré, je reprends ses propos, je cite, comme on dit, « Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans ». On a évoqué tout cela, nous, hier soir, en prenant toutes les précautions nécessaires, et on a sans doute bien fait, Daniel, Florent, hier soir, parce qu'aujourd'hui, renseignement pris auprès du cabinet de Gérald Darmanin, voilà les arguments mis en avant. Hein. Rappelons quand même que c'est une accusation grave, puisque les frères musulmans sont considérés dans beaucoup de pays comme une organisation terroriste. En fait, ce qu'on nous explique dans l'entourage de Gérald Darmanin, c'est que là aussi, je cite, « Depuis plusieurs années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste. » Alors, quels sont les éléments concrets qui font dire ça au cabinet de Gérald Darmanin? 1. Le refus de l'ancien attaquant des Bleus de chanter la Marseillaise. 2. Du prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman. 3. Photos avec l'imam de Meaux qui avait fait l'objet d'une perquisition dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty. 4. Soutien aux combattants russes de MMA, Nourmagomedov, lui a par ailleurs fait des appels à la haine sur ses réseaux sociaux. Voilà en fait les éléments. Alors, dit comme ça, quand on a vu ces explications, ça semble quand même assez léger. C'est pas concret. Ce qu'on dit là, ça n'établit pas un lien entre Karim Benzema et les frères musulmans. Alors évidemment,
Surtout qu'il y a une énorme différence.
Après, je raconte.
Termine.
Je veux dire que l'avocat de Karim Benzema ce soir a réagi très fermement en menaçant de porter plainte pour diffamation contre un certain nombre de personnes qui ont par ailleurs donné leur avis aujourd'hui. Je cite par exemple une sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, qui elle aujourd'hui a carrément appelé à déchoir de sa nationalité Karim Benzema, de lui retirer son ballon d'or. Donc cette histoire est quand même allée loin. Concrètement, à défaut de preuves. Enfin, c'est comme ça que je le vois ce soir. Hein. Je peux voir votre avis, Daniel et Flo, mais ça semble quand même, les explications semblent quand même très légères.
Il est clair que les points que tu as donnés là, à commencer par le premier, ne chante pas la Marseillaise.
C'est
les gens qui chantent pas la Marseillaise doivent être suspectés de ne pas aimer la France et pire d'être acoquinés et d'avoir des accointances avec des partis politiques extrémistes, c'est pas possible. Donc je pense que les arguments annoncés par le cabinet ne constituent absolument aucunement une preuve de l'appartenance ou de la proximité de Benzema avec les frères musulmans. la réponse de l'avocat, elle est plus claire, parce que c'est ce qu'on disait hier soir, on l'attendait. Là, il y a une réponse juridique de l'avocat. Bon, la réponse de Benzema était quand même beaucoup moins claire hier soir, là, sur, mais j'ai pas comprise d'ailleurs. Mais il est clair que la seule chose de la part de Benzema qu'on n'a jamais eue, là y compris, ce serait peut-être l'occasion, mais est-ce que le souhaite-t-il vraiment, c'est que lui s'exprime aussi sur ce sujet-là, parce que il y a eu effectivement plein de sujets abordés avec lui, mais rarement ce problème, justement, enfin ces sujets-là d'intégration, de lien avec la France, tout ça, on n'a jamais entendu Benzema parler là-dessus de ça. Très très précisément. Après, en revanche, sur la sur la phrase de Darmanin, pour être très clair, si le ministre de l'Intérieur s'est basé que sur la liste des arguments que tu as donné par son cabinet, c'est absolument hallucinant.
Bon, j'ai passé la journée là-dessus, là, parce que effectivement, ça, c'était important d'essayer de comprendre ce qui se passait autour de ça. D'abord, effectivement, le temps passé entre la décla sur CNews Darmanin et le moment où c'est devenu, où c'est entré dans le débat public, je trouve a été assez long. Comme si on n'avait pas tout de suite compris. Mmh. Oui, mais 24 heures dans notre milieu, t'es d'accord que c'est un monde.
Ah oui, oui.
C'est rarissime. Mmh. Comme si on avait
les Espagnols ont réagi plus vite que nous parce qu'ils suivent toute l'actualité de Karim Benzema de très très près.
Un peu comme si on avait eu du mal à comprendre ou qu'on s'était pas intéressé ou qu'on n'avait pas fait gaffe à ses propos. Et d'ailleurs, t'as vu, hier, quand je suis arrivé au bureau, j'ai dit, mais les gars, vous avez vu ce qu'a dit et tout. On avait tous mis un petit peu de temps, on n'avait pas réellement pris conscience du truc. Donc, forcément, on a demandé, comme tu l'as dit, au cabinet, des détails. Ils nous ont envoyé la liste que tu viens de lire. Moi, je lis la liste et je me dis, attends, on met la liste d'un côté et en parallèle, on met ce que sont les frères musulmans. Il peut y avoir dans la liste des choses qu'on peut trouver avec lesquelles on n'est pas d'accord, que des choses qu'on trouve gênantes. Et ça, depuis que je parle de Benzema, à savoir depuis la fin des années 2000, j'ai toujours dit ce qui me gênait chez lui. Ça m'a jamais empêché de parler de lui comme joueur, et surtout, ça m'a jamais poussé à ce genre d'accusation. C'est là que je comprends pas. C'est le lien entre deux, trois choses qui... Oui, effectivement, le soutien aux boxeurs, moi, ça m'avait fait chier. On m'a expliqué, renseignement pris, que ce gars-là est une telle idole dans les banlieues qu'on, ça veut pas dire qu'on partage exactement tout ce qu'il dit, même si on retweet un petit peu ce qu'il est.
Quoi ? Un petit taureau vient de tomber dans la cagnotte.
Parce que j'ai dit, là, je vois pas.
Ça m'avait fait... Ça m'avait ennuyé, ça m'avait embêté.
Ça m'avait ennuyé. Donc, ok. Effectivement, là-dessus, exactement comme ces messages il y a 2-3 jours, à chaque fois, on dit ces gens. Mais de là à passer et à dire, il est proche des frères musulmans, là, je ne comprends pas. Donc, je suis allé également demander à des experts de la question, de ce que sont les frères musulmans, de à partir de quel moment on dit qu'on en est ou qu'on n'en est pas. Et je leur ai envoyé la liste. Est-ce que vous faites un lien entre ça et ça? Quand je parle d'experts, je parle de, tu vois, experts vraiment, voilà, quoi. Il y a eu une formule un peu bizarre dont on a parlé, je crois que Darmanin en a parlé aussi, c'est le frérisme d'atmosphère. Mais on me dit, si on le définit pas vraiment, on risque un peu de déraper et de pas réellement, soit on dit les choses, soit on les dit pas, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire, frérisme d'atmosphère? Un peu comme une hype où, tu vas de temps en temps dire, tu vas montrer que t'es un peu conservateur en termes religieux. Est-ce que c'est suffisant?
Non, justement, je t'interromps parce que ce terme, ce frérisme d'atmosphère, il existe là en ce moment parce que les éléments...
Il est employé par Darmanin normalement.
Oui, mais il est employé par plein de politiques et par plein de spécialistes, par Gilles Kepel notamment.
Oui, c'est lui qui a théorisé ça.
Ouais, mais c'est assez simple et malheureux. Sur les collégiens et les lycéens qui ont désobéi ou qui ont été, qui n'ont pas respecté la minute de silence, certains ont eu ce qu'ils appellent ce frérisme d'atmosphère, c'est-à-dire de dire, en gros, je mets des guillemets, ce qui est arrivé à Samuel Paty, bah, c'est normal parce que, voilà, il y a eu ça.
Dans ce cas-là, ça veut dire que Benzema entre dans ce cadre en n'ayant pas, dans la tête de Darmanin en tout cas. Dans la tête de Darmanin.
En l'occurrence, dans ce qui est défini comme le frérisme d'atmosphère, c'est des propos plus graves que ce que Benzema a jamais tenu.
Absolument. Enfin, je suis d'accord là-dessus.
Non, mais là, il n'y a rien de concret.
Et de la même façon, comme on dit, ces spécialistes m'ont dit, à un moment, les frères musulmans, c'est une organisation. Soit tu es membre, soit tu n'es pas membre. Donc, soit tu prouves qu'il est membre, soit tu prouves pas qu'il est membre. Donc, quand tu le dis, il faut l'expliquer. J'ai pris mes petites explications sous le bras. Je vous les mets sur la table. Demain soir, Gérald Darmanin sera chez Yves Calvi à 19h sur BFM. Nul doute que des questions lui seront posées là-dessus. Soit il a d'autres arguments, soit je ne comprends pas réellement pourquoi il a dit ça. Benzema, encore une fois, parfois, effectivement, avec ses explications nébuleuses, il est un peu border. Je trouve toujours que c'est un petit peu... Mais bon... Benzema, il est assez classique finalement entre le lundi, je fais un peu le rigoriste, je fais la promotion de ma religion, tout ça, et le mardi, je fais du jet ski à Miami. Il est muslim light quand il a envie et quand il fait la fête, et puis le lendemain quand il faut parler du pèlerinage, il est un petit peu comme beaucoup de gens avec la religion.
Enfin, il vit sa vie quoi. Voilà.
Ouais, exactement. Voilà. Donc moi j'attends à ce stade, j'attends vraiment des précisions.
Laissons-le vivre sa vie et tant qu'il n'y a exactement. Pas de preuves concrètes.
Donc, j'attends des précisions, sinon il faudra parler d'une erreur politique.
Ce message de soutien aux victimes de Gaza, il y avait c'était comme ça l'origine, c'est pas parti de rien du tout.
Mais encore une fois, comme on l'a dit, qu'il le fasse, il y a aucun problème.
Oui, c'est
on peut trouver regrettable qu'il mette pas un mot pour le prof. Je l'ai dit, je le redis. Maintenant, il fait pas, machin, hop, voilà quoi, tu vois. Bon.
Quant à la sénatrice Valérie Boyer, franchement, demander la déchéance de nationalité. Déjà.
Oui, alors là, il faut pas, alors juste, je veux pas la défendre tout, faut pas juste pas faire un mauvais procès, parce que dans la phrase, on oublie que dans la phrase, elle dit si. Ah. C'est-à-dire, si il est prouvé que, bon, alors elle le demande. Mais elle dit si, hein, même dans le tweet, si vous regardez bien, il y a le si.
Petite précision, on ne peut pas déchoir de sa nationalité quelqu'un qui n'en a pas une autre. Mm-hmm. Voilà, au passage.
Oui, il faut qu'il ait une nationalité, la double nationalité, par exemple. Exactement. Une double nationalité. Ouais. Non, un mot quand même, c'est que je pensais, quand j'ai entendu Darmanin, pour te dire, oublions Benzema. Admettons que Darmanin ait dit sur un individu qu'il était proche des frères musulmans. Parfois, quand on dit ça, c'est qu'on a des preuves, par exemple, d'un financement. C'est-à-dire que t'es pas forcément adhérent, on va dire, d'une association réputée salafiste, par exemple, mais on te dit que telle association ou telle personne finance telle mosquée réputée proche d'eux. Ça arrive, et c'est ça, ce genre de preuves, souvent, qu'ont les services. C'est pas le cas, sinon ça aurait été dit dans les arguments du cabinet ministre. Donc si c'est pas le cas, je ne comprends pas pourquoi, on va dire, Gérald Darmanin a pris ce risque qui est quand même très très de la part d'un ministre de l'Intérieur par rapport à un individu comme Benzema qui est très connu, qui va donc en souffrir.
C'est pas qu'il est très connu, il est même symbole et emblème de toute une jeunesse en France. Et je vois pas l'intérêt là comme ça de lui rentrer dedans de cette façon. Après, si demain il arrive chez Calvi avec des documents et tout, écoute, on sera là, on sera là pour les regarder.
Ou peut-être qu'il arrivera en disant pardon, je suis allé un peu trop loin, voilà.
Je trouve que ce sera ballot s'il fait ça.
C'est pas le genre, de la maison.
Même s'il dit je suis allé trop loin, ceci, cela.
Enfin, moi, pour finir, Gilbert, un mot.
Très vite.
Si c'est pas prouvé, et pour l'instant ça ne l'est pas, les propos de Darmanin et l'appartenance et la proximité de Benzema avec les frères musulmans, dans un moment où on a plus besoin d'unité que de division, là quand tu vois ce que ça suscite comme division, justement comme opposition, je trouve que c'est quand même un peu malvenu.
Parce que s'il n'y a pas d'argument demain soir, on pourra ressortir le jingle pour Darmanin. Hein, Gilbert?
Ah, le jingle menteur?
Je sais pas. On pourra. S'il n'y a pas plus de billes, ça va être compliqué, oui.
Voilà pour cette affaire. Concernant Youssef Attal, sachez qu'aujourd'hui, il a été suspendu jusqu'à nouvel ordre par son club de l'OGC Nice. Je rappelle qu'il avait, le joueur niçois, relayé sur les réseaux sociaux la vidéo d'un prédicateur qui appelait à un jour noir pour les Juifs. Voilà, donc le club aujourd'hui a tranché, suspendu jusqu'à nouvel ordre. Attal qui est rentré de sélection là ces dernières heures. Dans un instant, on démarre notre grand dossier médical. Tiens, si vous êtes footballeur, si vous êtes entraîneur de foot, tout ça va également vous passionner parce que ça ne concerne pas que les pros. Hein.
Tout ce qu'on va raconter maintenant. Pas de parler, ils ont raison. On n'a jamais dit un mot sur Cantona.
Ah, sur Cantona.
Toute la semaine, parce qu'il s'est beaucoup exprimé. À chaque fois, on oublie toujours de parler de Cantona, qui est un type perso qui m'emballe pas des masses. Donc c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois je le zappe. Mais il choisit ses combats et tout. Il dit bien ce qu'il veut et on a le droit de pas être d'accord avec lui. Hein. Et je suis.
Il a le droit de s'exprimer aussi.
Et je suis très très rarement d'accord avec lui, mais il a le droit de s'exprimer.
Dans un instant, le médical.
Et c'est un droit qu'on n'a jamais nié pour personne.
Dans
l'after, pas de mauvais procès.
Exactement. On se retrouve dans quelques secondes. Et puis n'oubliez pas, avant minuit, l'Amérique du Sud sera également au programme dans l'after en direct sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h52, l'after est là jusqu'à minuit. Voilà un dossier qu'on veut ouvrir maintenant, qu'on veut faire depuis des semaines. Daniel Riolo, Florent Gautreau, vous êtes là avec moi. Et bah parce qu'on parle toujours des blessures des footeux. Et puis bon, bah nous, on n'est ni médecin, ni kiné, ni ostéo, ni psy. Donc bah tout ça, finalement, est parcellaire. On relaie des infos qu'on a.
On en a vu beaucoup.
De quoi, des psys?
Non, des psys, des kinés. Surtout des kinés.
On va en parler ce soir avec Grégory Delante, notre invité qui est là. Grégory, bonsoir. Alors Grégory, t'es plus habitué à manipuler les footballeurs qu'à parler dans le micro.
Ah ouais, je parle pas.
Donc faut que tu te mettes bien en face du micro. Voilà. Voilà, c'est parfait pour qu'on t'entende bien. Donc tu es kiné ostéopathe. T'as bossé plusieurs années au Stade Français.
10 saisons au Stade Français avec Bernard Laporte, avec de nombreux entraîneurs.
T'as eu Moscato, non?
Ah, je l'ai eu quand c'était la fin de Moscato.
Il n'y avait plus rien à masser.
Il devait y avoir du boulot, là.
Non, il n'y avait plus rien. C'était fini. C'était la fin. Il faisait encore quelques apparitions en équipe réserve et puis c'était la fin. Mais bon.
Et après,
il est pas là.
Tu as géré les troisième mi-temps.
Ouais, non, ça, ils avaient bien le géré avec Serge. Ils étaient pas mal, je pense, tous les deux.
C'était une belle. Serge Simon. Ouais, Serge Simon. Et 10 ans au PSG ou.
Ouais, centre de formation.
Où tu gérais, là, la cellule des kinés du.
La cellule des kinés du centre de formation pendant 10 saisons. J'ai connu l'avant Qatar, l'après Qatar, le changement. Voilà, avec tous les bons côtés, les mauvais côtés, et tout ce qu'ils ont pu apporter quand même de très bien sur la structure des jeunes. J'espère que ça continue maintenant. Mais c'est vrai qu'ils ont apporté énormément.
Et beaucoup, tu as également géré beaucoup de très très bons joueurs de tennis, dont moi.
Ouais, dont Daniel. Alors on essaye, on a un challenge de le faire progresser pour pas que son fils le rattrape tout de suite. Mais c'est vrai que là, on va avoir du mal parce que le gamin joue bien. Et Daniel, il va vite se faire rattraper.
On sait très bien que le principal problème de Daniel, c'est pas l'entraînement, c'est l'hygiène de vie.
C'est ça. C'est un peu comme beaucoup de joueurs de foot.
D'après ce qu'il disait en antenne, c'était comme Verratti.
Mais comme, ouais, c'est ça. Il a la blessure qui commence déjà. Donc après, il va aller voir les deux professeurs bien connus pour se faire réparer. Ça va peut-être pas fonctionner. Et puis après, on va faire blessure sur blessure. Et puis après,
il va me porter l'œil.
Vous l'avez vu, Greg a la langue bien pendue. Ça tombe bien parce qu'on va parler de plein de sujets intéressants. Et je précise qu'aujourd'hui, toujours, tu bosses de façon personnelle avec des sportifs de haut niveau, ouais, tennis, foot.
Un peu de basket. Du hand maintenant avec les filles d'ici, les Moulineaux là qu'on suit aussi. Voilà, on continue à rester dans le milieu
bon, Greg,
du sport.
Maintenant qu'on a eu le CV, et évidemment, on sait tous à quel point t'es fort. Ce sujet, je voulais le faire depuis longtemps parce que d'abord, ça nous arrivait d'en parler quand malheureusement je venais de voir. Et on se disait un soir, je ne sais plus à propos de quel joueur, et quand on entre dans un process de blessure, on a le sentiment que pour certains joueurs, alors peut-être. Le gars qui se blesse une fois, bon, ben, il est soigné et c'est bon, mais il nous arrivait parfois de constater que certains joueurs, c'est un peu comme s'ils entraient dans une spirale négative et qu'ils faisaient des entrées-sorties permanentes et que on avait du mal à suivre leur carrière parce qu'elle était faite de haut et de bas en fonction de ça. Et je me disais, est-ce qu'on peut sortir de ça une fois qu'on est dans cette spirale?
Je pense qu'on peut en sortir. Après, c'est d'où part la spirale? Parce qu'on voit toujours les conséquences. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, je sais que le cas de Verratti l'aime bien. Mais on ne sait pas si de sa première blessure, cette fameuse pubalgie, est-ce qu'il a été soigné correctement? Est-ce que ce n'est pas ces séquelles qui traînent depuis longtemps et qui...
Lui, il dit non. Hein.
Oui,
il a dit clairement, non. J'ai joué blessé plein de fois, on ne me laissait pas le temps, etc.
Oui, mais une douleur comme il a eu, je pense que c'est des choses qui sont ancrées. D'accord? Un athlète de haut niveau, il a envie de jouer. Quand tu ne joues pas, comme tu le dis, tu as une espèce de psyrate. T'as compris? Et cet aspect psychologique, il va prendre le pas. Et c'est là où, comme tu le disais, le côté psy, aller voir un psy, c'est, ah, putain, tu vois, un psy, t'es débile. Je pense que c'est pas le cas, ça peut aider. Après, les clubs qui font appel à des préparateurs mentaux, à des psys, je pense que c'est très bien. Mais on le sait tous, que ce soit un kiné, un ostéo, chacun a un ressenti différent. Donc, il faut vraiment que l'athlète, on considère pas dans ces spirales, on voit une blessure. C'est un athlète. C'est-à-dire que ton athlète, c'est pas un ischio, c'est pas un pubis, c'est pas une douleur qui va, qui vient. C'est un être humain à voir dans sa globalité. Et ça, on le regarde jamais.
Alors, permets-moi de t'interrompre. Juste au tout début de ta description, t'as dit, on sait pas comment ça a commencé. Est-ce que le on sait pas comment ça a commencé, ça veut pas dire, et ça, je l'ai souvent entendu, tu m'en as parlé, mais t'es pas le seul à m'en avoir parlé, que parfois dans les clubs, la cellule médicale était pas, premier élément, pas totalement toujours en osmose avec le staff technique, soit déconsidéré, Et là, je crois que là, par plein de problèmes, c'est il faut que tu reviennes vite. Il faut que tu te reposes plus parce qu'on a besoin de toi et tu vas pas te soigner complètement parce que la compète revient et tout. Et pas assez développé, la cellule médicale, pas assez prise en considération. Alors que pourtant, ça me semble être un poste de travail dans un club professionnel qui doit être mais capital.
Ben, là, tu as tout à fait raison. Et c'est le problème que tu as, je pense, dans tous les clubs pro. Que ce soit dans le foot ou dans le rugby, la cellule médicale, c'est la cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire que. Mais parce que.
Je l'entends trop souvent.
Quel est l'intérêt? Tu as un joueur, tu l'utilises. Tu vois pas l'intérêt financier quelque part. Parce que quand tu as un joueur qui est blessé, financièrement, c'est un coût. Si tu as un bon staff médical, ce coût, tu l'as pas parce que tu n'es pas obligé d'avoir quatre remplaçants pour un poste. Au poste de Verratti, tu pourrais faire jouer, je prends cet exemple-là, Verratti toute la saison. La cellule médicale, on n'est pas bien payé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui payent. Ils vont payer cher un préparateur physique, cher un joueur.
Un médecin dans un club, il est moins payé que s'il était à son compte et qu'il avait un cabinet en ville?
Dans beaucoup de clubs, oui. Au PSG, je te dirais non, je pense pas. Dans beaucoup de clubs, oui. Oui, parce que voilà, mais c'est des compétences. Et des compétences, c'est comme tout le monde, ça a un prix. Quand t'es bon, tu vaux quelque
on
chose.
On surpaye les joueurs, mais on sous-paye le staff médical.
Alors moi, je suis plus dans le rugby, mais t'avais des kinés qui étaient à plein temps dans les clubs de rugby qui étaient à 1500 euros. Alors ça fait peut-être beaucoup, mais c'est ridicule.
Ah oui.
Dans des clubs de foot, eh ben, tu gagnes beaucoup moins que si t'es en libéral avec un cabinet qui tourne, avec du monde, avec. Voilà.
Mais t'as eu des exemples concrets, par exemple, dans des clubs où t'es passé, où l'entraîneur arrive et il est pas en phase avec le staff médical?
Ben, ça peut arriver, tu vois. Alors, la France, c'est particulier parce qu'en France, un médecin étranger n'a pas le droit d'exercer. C'est-à-dire que si t'es médecin étranger, tu peux pas exercer en France, faut passer par l'hôpital, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'en France, tu n'as que des médecins français. T'as beaucoup d'entraîneurs étrangers qui veulent venir avec leur staff, ils peuvent pas. Ça s'est passé dans un grand club français et il a pas pu venir avec son staff et ça s'est peut-être pas bien passé avec le médecin. Mais c'est un tout.
Si le médecin ne parle pas, je sais pas, je te prends l'exemple d'un entraîneur espagnol qui se pointe à Paris ou allemand qui se pointe à Paris, si déjà ils se comprennent pas avec le médecin qui est français ou qui parle pas la langue, c'est mal barré déjà. Parce que...
Ouais, et puis il faut être sur la même longueur d'onde. C'est toujours pareil, c'est une équipe. Il y a un chef dans un bateau, on va dire que c'est l'entraîneur. L'entraîneur, il doit avoir une équipe derrière lui. Et si ça, c'est pas soudé, ça met déjà le bazar à l'intérieur de ton équipe.
Moi, je reviens au début.
Attends,
le joueur arrive.
Et après, tu reviendras au début. Il est 23h, petite pub, et on revient, on continue la discussion avec Grégory Delante. À tout de suite.
RMC, l'after foot.